Chers bien-aimés, sommes-nous en train de reconstruire la tour de Babel? C'est le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. L'histoire commence par « Je suis un bébé congelé » et le titre d'une histoire sur la précréation in vitro. L'histoire commence dans un réfrigérateur. Le héros de l'histoire s'appelle Bébé congelé. Il affirme qu'avant de naître, il avait passé une très longue période dans la partie congelée d'un réfrigérateur ensemble avec d'autres embryons congelés. Les embryons congelés formés à partir des spermes et ovules des parents servent de réservoir de bébés humains pour le couple sans enfant voulant fonder une famille. Une fois inséminés dans le sein maternel, les bébés congelés deviennent finalement des bébés actifs qui finissent par naître et à faire la joie des familles qui les accueillent. Cette histoire étrange fait partie des lectures encouragées dans les écoles publiques américaines pour les enfants de 3 à 6 ans. Cette histoire a été écrite pour expliquer aux enfants conçus par l'insémination artificielle de connaître leur origine. Cette histoire ne mentionne pas le fait que plusieurs embryons humains ne deviennent jamais des bébés, mais au contraire meurent dans le froid du congélateur et sont jetés sans regret dans la poubelle des hôpitaux et centres de recherche. L'histoire du bébé congelé nous fait prendre conscience de l'émergence d'une grande entreprise moderne, dorénavant tournée vers la reproduction humaine artificielle. Le biologiste moléculaire Lee Silver de l'Université de Princeton aux États-Unis soutient que le clonage humain serait une activité utile. Selon Silver, dans le futur, une femme pourrait porter dans son sein la copie de sa propre personne. Les hommes, eux aussi, pourraient devenir grosses et accoucher. Ainsi, selon ce dernier, deux femmes lesbiennes pourraient combiner leurs ovules et concevoir leur propre enfant. Silver va plus loin et affirme qu'il serait possible de fabriquer des êtres humains sans un cerveau fonctionnel, dans le seul but de les utiliser comme de réservoirs, de pièces de réchange, de pièces détachées pour soigner d'autres personnes. Silver ne voit aucun problème moral dans le programme de reproduction des matières biologiques humaines qu'il conçoit. Selon lui, que nous le voulions ou pas, le marché des matériaux biologiques humains fera son chemin. Il prédit que dans les 20 années à venir, les parents seront en mesure de choisir d'avance quelles caractéristiques biologiques ils voudraient partager ou ne pas partager avec leurs enfants en formation. Ils pourraient ainsi choisir la couleur des yeux de leurs enfants ou encore la forme de leur nez, du menton, etc. Et selon lui, les avances dans les technologies génétiques seront telles que les scientifiques pourront ajouter des gènes de synthèse aux enfants dans le processus de leur fabrication embryonnaire. Alors, davantage, selon Silver, les parents seront dorénavant capables d'utiliser des catalogues biologiques pour bébés afin d'être capables de choisir des traits physionomiques qu'ils préféreraient ajouter à la composition génétique de leurs enfants. Silver croit que dans le passé, l'évolution de l'espèce humaine s'était faite par hasard, mais que dans l'avenir, celle-ci, à savoir l'évolution de l'espèce humaine, se fera par la décision des parents de faire fabriquer la composition génétique de leurs enfants selon leurs choix et priorités. Il affirme « Aujourd'hui, nous contrôlons notre propre évolution parce que nous sommes capables de choisir quel gène attribuer à nos enfants. Ceci est déjà en cours dans les cliniques où les embryons sont sélectionnés. » Silver n'est pas le seul à défendre cette position. Plusieurs scientifiques qui ont gagné le prix Nobel, ainsi que des hommes d'affaires impliqués dans l'industrie de biotechnologie, des sociologues et des journalistes partagent la même position. Même si plusieurs scientifiques ne vont pas à l'extrême comme Silver, toutefois, presque tous croient que nous, humains, sommes en mesure de prendre en charge notre propre évolution. Wilson, un biologiste de l'université de Harvard, affirme « Ayant enfin une connaissance exacte de son génome comme une divinité, l'humanité pourrait dans les décennies à venir décider de son évolution et prendre en main son ultime destinée. » Quand Lee Silver a écrit sur l'avenir de la reproduction humaine et de l'ingénierie génétique, il avait intitulé son livre « La récréation d'Éden ». Dans le narratif biblique du Jardin d'Éden, il y est dit que Dieu avait créé les premiers êtres humains et les avait placés dans un cadre idéal, à savoir le paradis. Dans le livre écrit par Silver, ce sont les scientifiques qui sont responsables de la création de la nouvelle humanité. Ce sont eux qui font du monde un nouveau paradis. Au lieu que cet effort soit une récréation de l'Éden original, il constitue en fait un nouvel effort de reconstruire la tour de Babel. En effet, Babel est le lieu où l'humanité confiante dans ses capacités et prouesses technologiques avait voulu s'élever au même niveau que Dieu. Dans Genèse 11, la Bible nous en donne le dénouement. Au début de l'histoire universelle, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse 11, 1. Les humains, multipliés, après les déluges, s'organisent en une communauté technologique qui veut se sédentariser. Mais la région dans laquelle elle se trouve n'offre pas des matériaux naturels facilitant la construction d'une cité durable. Leur ingéniosité leur venant en aide, rapidement ils prennent la décision de créer une nouvelle technologie qui leur permettrait d'accomplir leur volonté de sédentarisation. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons de briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Genèse 11, 3. Certes, la technologie inventée par les humains à Babel, les cuissons de briques et son mélange avec du bitume est primitive comparée à la génétique et à l'informatique moderne. Mais aussi bien les humains de Babel que les humains de notre temps ont tous le même esprit, l'indépendance et la capacité d'innover. La capacité d'utiliser les ressources disponibles pour faire sortir des réalités physiques nouvelles. La capacité d'innover est la fondation de toute technologie. Certes, la technologie est bonne. Elle est fondée sur les capacités intellectuelles et créatrices que Dieu nous a données afin que nous puissions gouverner le monde dans lequel nous vivons. De fait, la technologie n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut être mal utilisée. Tel a été le cas à Babel. Cuire les briques, les mélanger au bitume n'était en rien mauvais. Mais c'est la raison pour laquelle la technologie a été utilisée qui a été la cause de sa négativité. En effet, les humains à Babel voulaient utiliser leurs prouesses scientifiques pour jouer Dieu. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Genèse 11, 4. En effet, à Babel, les humains voulaient centraliser leur pouvoir en vue de contrôler leur destinée. Ils voulaient ériger un monument pour célébrer leur grandeur. Ils pensaient qu'ils pouvaient, par leur construction, s'élever jusqu'à Dieu. De nos jours, quand les humains modernes veulent jouer Dieu, ils ne construisent pas des tours. Ils veulent fabriquer des bébés. Selon les paroles de Silver, l'humanité veut prendre contrôle de son destinée ultime. Avec et après Babel, les technologies humaines ne cessent de changer. Mais ce qui ne change pas, c'est l'orgueil qui caractérise l'humanité de tous les temps. C'est le désir de nous placer au même niveau que Dieu. Nous ne le dirons pas assez. La technologie humaine n'est pas mauvaise en soi. Elle devient mauvaise quand elle devient un instrument de rébellion contre Dieu. Pour que nous puissions être en mesure d'utiliser nos capacités humaines d'une manière qui glorifie Dieu, nous devrions développer une vision, une nouvelle vision, une vision qui vienne de Dieu. Dans son article publié dans Time Magazine, William Henry écrit ce qui suit concernant les progrès technologiques. La vraie force derrière les progrès technologiques, c'est le désir des humains de tout contrôler, de contrôler l'environnement, de contrôler les organismes vivants, de contrôler toutes les données disponibles, de contrôler l'aspect psychologique et génétique, le destiné de l'humanité. La plus grande guerre idéologique future interviendra entre ceux qui croient que les humains peuvent à eux seuls décider sur ces avancées technologiques et ceux qui croient que ces avancées doivent être contrôlées par la nature et par Dieu. Ceux qui domineront ces débats domineront la destinée de l'humanité tout entière. Sans faute, chaque fois que les humains essaient de prendre contrôle de leur destinée en dehors de Dieu, ils ne font autre chose qu'essayer de reconstruire la tour de Babel.